Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Thomas, je crois que
ça va bien, Sidonie.
C'est vrai qu'on
vous
change
êtes arrivé
chaque soir.
Justesse. Non, ça fait une bonne dizaine de minutes.
Moi,
mais
j'aime bien,
comme
j'aime
ça,
bien
de choses et d'autres.
Vous dites bonsoir le premier aussi.
Bonsoir, Sidonie.
Bonsoir, Thomas. Bonsoir à vous, les curieux.
Et salut à vous tous au programme, parce qu'il y a un beau programme. Des carrosseries de rêve, des pilotes de légende, Bugatti, Ferrari, Fangio. Et une voix que vous connaissez bien pour nous guider dans les allées de Rétromobile, celle de Jean-Alphonse Richard, passionné de belles voitures. Nous pousserons aussi la porte de certains des hôtels particuliers les plus cossus de Paris. Mais là, c'est avec un juge d'instruction que nous entrerons. La justice française s'attaque au trésor caché des dictateurs. Nous vous raconterons comment.
Curiosité est un vilain défaut.
Gitano, RTL. El color de mi cielo. 20h-22h.
Et tu seras mi amor.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Gens du voyage, Rome, gitans, zigane, manouche, bohémien, nomade, Romain Michel. Et il y en a encore. Des noms, des mots pas toujours bien employés, parfois par maladresse, parfois par méconnaissance. Bonsoir Marc Bordigoni.
Bonsoir, bonsoir.
Vous êtes anthropologue et spécialiste des gens du voyage. Vous allez nous faire découvrir ce monde qui rassemble combien de personnes en France ?
Oh là, c'est déjà une question piège entre guillemets, c'est-à-dire que c'est évidemment un débat au sein des organisations, au sein de l'État.
Juste un mot,
gens du voyage, ce sont des gens qui sont légalement titulaires d'un titre particulier, le livret de circulation. C'est donc un statut administratif particulier, ça représente à peu près 250 000 à 300 000 personnes en France. Mais ce mot est employé maintenant pour désigner effectivement tous les gens qui se considèrent comme ayant une culture du voyage, des ancêtres qui ont voyagé, des gens qui ne voyagent plus, de gens qui n'ont même jamais voyagé, mais puisque c'est le terme qui est venu remplacer dans la langue française souvent gitan, etc., ben certains vont se dire voyageurs ou je fais partie des gens du voyage pour qu'on les classifie dans cette grande multitude des cultures tziganes.
Et c'est compliqué de donner un chiffre parce que c'est politiquement sensible aussi ?
C'est politiquement sensible, effectivement, dans la mesure où, vous savez bien qu'en France, il n'y a pas de reconnaissance des ethnies, hein, il n'y a pas de statistiques ethniques, même si le débat est encore ouvert tout récemment par une sénatrice verte. Mais la République est une et indivisible. Pourtant, la République française, à partir de 1912, a créé un statut particulier pour les bohémiens. C'était le statut des gens qu'on appelait nomades, parce qu'on voulait pas. Tout le débat parlementaire parle des bohémiens et des tziganes, mais la loi ne parle que de nomades, même si on sait de qui on va parler. Et la loi de 69, qui modifie la loi de 1912, va parler en fait à ce moment-là de SDF, les gens sans domicile fixe, mais les gens qui ont un domicile, la caravane. Mais qui n'est pas fixe. Mais le mot SDF s'est transformé et on a repris un terme, gens du voyage, pour désigner ceux qui ont un habitat qui n'est pas destiné à rester forcément toujours sur place, même si pour beaucoup, ils ne bougent plus.
Oui, parce que les gens du voyage, ce sont des gens nomades, mais des gens aussi sédentaires, pour certains.
C'est maintenant des réalités qui sont tout à fait complexes. On avait les dernières statistiques officielles disaient il y avait un tiers de sédentaires, un tiers de semi-sédentaires et un tiers de nomades. On reproduit toujours ces chiffres qui datent de 1961.
Alors, des gens du voyage sédentaires, ça veut dire quoi ? C'est des gens du voyage qui ont décidé qui habitent dans un appartement, qui ont décidé de se fixer ?
Voilà. Alors, c'est là où on mélange les choses. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'effectivement, vous avez, parmi les gens qui font partie de cette culture très large des formes de la culture tzigane, vous avez tout des tas de gens qui sont des gitans, des ritanos. Le mot gitan est dérivé du mot catalan gitane. Hein, au 19e siècle, on disait pas gitan, on disait gitane.
Et ça veut dire quoi ?
C'est un gitane, c'est quelqu'un qui était marqué par la culture hispanique. Et le mot gitan dérive du mot égyptien, comme le mot anglais gypsies, c'est-à-dire la manière dont on a qualifié les premiers groupes qu'on a repérés, qui sont arrivés en Europe de l'Ouest au XVIe siècle, et qu'on appelle à ce moment-là les Égyptiens. Et puis les Égyptiens venant de Bohème, et puis c'est là qu'on a pris le mot bohémien. Et puis au XIXe, il y a le mot tzigane qu'on a pris au russe qui s'est collé à ça. Et puis au XXe, on a collé nomade. Et puis on s'est aperçu que certains se disaient manouche, que d'autres se disaient rome, que d'autres se disaient sinti, que d'autres se disaient yéniche. Donc on a pris les mots dans la manière dont ils se parlaient, ils se dénommaient eux-mêmes, sont rentrés dans le vocabulaire selon les régions. Et c'est pour ça qu'on a une complexité de terminologie.
On va revenir sur cette histoire, évidemment, sur ce qu'on appelait les Égyptiens, les Bohémiens, et qui racontent toute la culture des gens du voyage.
Et alors, ceux dont on parle le plus en bien, en mal le plus souvent, c'est les Roms. Les Roms, on les intègre aux gens du voyage déjà pour comprendre, ou c'est très différent ?
Non, la situation est très différente. Dans la mesure où, quand je vous parlais des gens, quand je vous parle des gens du voyage, et y compris des gens qui ne voyagent pas, mais qui peuvent de temps en temps se dire voyageurs ou de culture du voyage, les gitans, mais sédentaires depuis 150 ans, ce sont des citoyens français. On a affaire à un univers où il y a, dans la population française, des gens qui vont être identifiés administrativement comme gens du voyage, ce que je disais. Puis des gens qui vont employer le terme de voyageurs ou dire « nous, on est du monde du voyage » parce qu'on se situe dans une culture ancestrale de cela.
D'accord.
Mais ce sont des citoyens français, depuis le 16e ou le 17e siècle. Mmh. On a remonté des généalogies jusqu'avant la Révolution française dans pas mal de régions.
Ce n'est pas le cas des Roms.
Ce n'est pas le cas des Roms, ce qu'on appelle très souvent les Roms migrants, on emploie ce terme-là, dans la mesure où ce sont effectivement des gens qui sont venus, pas simplement depuis la chute des pays de l'Est, puisque dès les années 60, on a une migration de gens de culture Roms. C'est une identification culturelle qui venait de Yougoslavie, qui à l'époque venait comme travailleurs immigrés et se sont intégrés dans la société française sans que l'on n'en parle plus. Mmh. Et puis on arrive à partir de la chute de Ceausescu en Roumanie, etc., et des économies des pays de l'Est, c'était à ce moment-là, à la migration de toute une partie de la population pauvre roumaine, dont les plus pauvres et ceux qui ont fait encore les plus de frais de la chute de l'économie dirigée, ça a été ces Roms qu'on appelle Roms migrants.
Mais donc ça veut dire que les Roms ne viennent pas tous de Roumanie.
Les Roms ne viennent pas tous de Roumanie. Il y en a qui viennent de Bulgarie. Il y en a beaucoup qui sont réfugiés des anciens pays de l'ex-Yougoslavie. Vous avez des Kosovars, vous avez des Albanais, vous avez des Croates, enfin vous avez des Macédoniens. On a une variété de situations. Et là encore, avec des situations qui sont différentes, qui paraissent similaires, on a l'impression c'est tous les mêmes, quand on les voit, etc., parce que les conditions de vie matérielles dans lesquelles ils sont, mais il y en a qui sont citoyens européens, les Roumains, les Bulgares, il y en a d'autres qui sont simplement qui essaient d'avoir le statut de réfugiés, et alors eux sont véritablement clandestins.
On va dans un instant raconter, vous avez évoqué les Bohémiens, les Tziganes, les Égyptiens au 15e siècle, on va raconter leur histoire. Marc Bordigoni, vous publiez Gitans, Tziganes, Roms, idées reçues sur le monde du voyage aux éditions du Cavalier Bleu et Jean du Voyage aux éditions Dalloz. A tout de suite sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Du voyage serait environ 400 000 en France. Ils sont gitans, tziganes, manouches ou simples voyageurs ou sédentaires aussi. On part à leur rencontre avec l'anthropologue Marc Bordigoni et on va vous raconter leur histoire. Au 15e siècle, les gens du voyage sont appelés les Égyptiens. Pourquoi ?
Alors ça, c'est effectivement, c'est les premiers documents que l'on a, on les décrive comme en France, mais on a les mêmes choses effectivement en Espagne, en Italie, et en Allemagne, et ça va être le nom par lequel on les nomme. Une des étymologies possibles, ça serait qu'ils venaient d'une région de Grèce qui s'appelait la Petite Égypte, etc. Une autre chose qui est aussi une autre hypothèse, c'est aussi que c'était bien commode parce que ces gens arrivaient en étant très intrigants. On les décrit comme des merveilles parce que on est à l'époque de Jeanne d'Arc quand ils débarquent et quand ils arrivent en circulant. Et c'est une époque où il y a des mercenaires sur les routes, il y a des bandes de gens en armes, etc. Donc ça, c'est tout à fait pas surprenant. Mais ce qui surprend beaucoup les contemporains, et c'est pour ça qu'on a une très bonne description à Paris, mais on en a d'autres à Bologne, etc., ce sont des familles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de pauvres vagabonds qui errent. Ce sont des familles avec des jeunes, des vieux, des femmes, des enfants, avec des nobles, des gens qui ont des chevaux. Une chose qui intrigue beaucoup, c'est qu'ils ont des chiens, ils ont des armes, donc ils se présentent effectivement comme un peuple en circulation et avec une hiérarchie. Et quand ils se présentent aux portes de Paris, on les met déjà à l'époque à Saint-Denis, on leur interdit de rentrer dans la ville, puisque les troupes armées ne rentrent pas dans la ville à ce moment-là, en 1427. Et ils sont décrits très très minutieusement. Et ce qui est très intriguant pour les gens de l'époque, c'est que ils sont la manière dont ils sont habillés et l'allure qu'ils ont. Il faut savoir qu'à Paris, à ce moment-là, les vêtements sont des vêtements très taillés auprès du corps. On a des documents qui montrent que l'archevêque de Paris proteste du fait que les femmes ont des vêtements tellement moulés et qu'elles ont tendance à laisser même dépasser les tétons. Que les messieurs ont des pantalons qui sont, comme on dit, en Provence, moule-burne. et alors que les Égyptiens qui débarquent, qui se présentent comme étant un duc, un comte, qu'on reçoit très noblement, eux sont avec des grands vêtements amples, des grandes couvertures. Les femmes ont des allures avec des chemises, mais des chemises ouvertes, puisqu'elles allaitent facilement leurs enfants, etc. Donc une allure complètement différente. Ils ont des cheveux longs, noirs, ils sont barbus, alors que c'est une époque où on est rasé. Ils ont une chose qui intrigue complètement à l'époque, c'est qu'ils ont les oreilles percées, ce qui ne se faisait pas à la fin du Moyen-Âge. Il n'y a que Dieu. Le corps de l'homme est parfait. On ne pouvait flétrir le corps que de gens qui étaient bannis. Et eux n'étaient pas bannis. En plus, ils se présentaient, on les dit, les plus noirs des hommes, parce que barbus, mais ils avaient aussi des bijoux, ils avaient de l'or.
Et du coup, Marc Bordigoni, ils sont tellement différents, comment sont-ils reçus? Est-ce qu'ils sont mal reçus ou est-ce qu'au contraire...
Ils sont très très bien reçus. Ouais. Ils sont très bien reçus parce qu'ils arrivent avec des papiers. Pour des gens dont on dit que depuis des générations, ils savent ni lire ni écrire, ben par contre, ils savent très bien à quoi servent les papiers. Et ils se présentent à ce moment-là avec des lettres qui sont des lettres venant du pape, disant il s'agit d'un peuple qui a été, et c'est l'histoire qu'il raconte, qui nous est relatée dans toutes les chroniques italiennes, allemandes, françaises, ce sont des gens qui étaient dans une région qu'on pourrait dire les Balkans actuellement, où se confrontaient le monde ottoman et le monde chrétien. Et ils racontent qu'ils étaient chrétiens, que les Ottomans sont arrivés, qu'ils ont abandonné leur foi pour ne pas faire la guerre, donc ils sont convertis, et quand les chrétiens sont revenus, eh bien, ils étaient des apostats. Mmh. Et donc, les princes et les chevaliers des croisades ne savaient pas quoi en faire. Ils ont dit, allez voir le pape, c'est lui qui décidera. Et le pape donne un papier comme quoi ils vont errer pendant le monde, sans dormir dans un lit pendant 7 ans. Et ça va durer plus que 7 ans.
C'est comme une sanction du pape pour avoir renié la foi chrétienne, c'est ça ?
C'est des pénitences. C'est-à-dire quand ils circulent à ce moment-là dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge, ils ont un statut social. Ce sont des chrétiens en pénitence. Et donc, il est demandé par le pape à ce que les instances religieuses, les instances des villes, leur accordent l'aumône pour qu'ils puissent aller dans les différents lieux de pèlerinage, entre autres Saint-Jacques de Compostelle, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont, à ce moment-là, bien accueillis. C'est une période qui va durer 70 ans à peu près.
C'est-à-dire qu'après les Égyptiens, on va les appeler les Bohémiens, et après les Tziganes, c'est ça, au 19e siècle, Marie?
Voilà, on va les appeler. Alors, on les appelle Égyptiens. Et puis, parmi les lettres de recommandation qu'ils ont, ils en ont une qui est signée de Sigismond Bohème. Et donc, on va les dire, les termes vont être Égyptiens de Bohème. Et puis, Bohémiens. Et puis après, capitaine de Bohémiens, capitaine d'Égyptiens, etc., sous François Ier, sous Louis XIV.
Et Tziganes ? Et Tzigane, il vient d'où le mot ?
Tzigane est un mot qui arrive beaucoup plus tard, en français, alors qu'il existe dans d'autres langues. Hein. C'est un mot que le français va prendre à la langue russe et qui désigne effectivement aussi des gens qui ont probablement une origine commune ou une partie que ces groupes qui sont venus d'Égyptiens. Mais c'est, là aussi, c'est une étymologie sur laquelle il y a beaucoup de discussions qui viendrait de Hatziganoï, qui voudrait dire intouchable. Mais là-dessus, mes collègues universitaires qui sont forts en grec émettent de grosses réserves.
Et les Tziganes vivent de quoi? On est encore au 19e.
C'est de l'époque.
Je vais reprendre un tout petit peu plus tôt.
On a encore du temps pour se raconter.
Reprends un tout petit peu plus tôt. Au moment de leur arrivée, ils circulent et vivent beaucoup d'aumônes. Et d'aumônes conséquentes. Pendant un temps, c'est des aumônes tout à fait volontaires. Effectivement, de la part des villes, comme on a la ville d'Arras, la ville de Paris, on a les comptes de ce qui leur est donné, etc. Et puis, selon les régions, ils vont bénéficier de ce qu'on appelait autrefois le droit de passade. C'est-à-dire qu'il y avait plein de troupes de mercenaires, il n'y avait pas d'armée nationale. Donc, il y avait les Suisses du Pape, qui sont devenus les Suisses du Pape, mais qui étaient des mercenaires suisses, des mercenaires écossais, etc. Et les villes, quand elles voyaient arriver ces troupes, leur donner de l'argent en disant « Bon, bah, écoutez, on vous donne de l'argent, mais à condition que vous allez vous installer chez le voisin. » Ce qu'on appelait le droit de passade. Donc on a des traces aussi faites où, effectivement, les bohémiens sont devenus ça. Mais ils sont devenus aussi, dans cette Europe, qui est une Europe de guerre entre nobles de province et des différentes provinces, ils vont devenir des auxiliaires militaires. Ils étaient déjà ça, probablement, à l'époque où ils ont où les musulmans et les chrétiens s'affrontaient, puisqu'on a des traces de groupes qui sont restés du côté musulman, d'autres qui sont passés du côté chrétien, et où ils étaient fournisseurs de chevaux, fournisseurs d'armes, etc. Et lingères, et faisaient de la logistique pour les armées. Mmh. Et puis, juste dernière chose, ouais. Un certain nombre deviennent des militaires, et la noblesse française de province va les employer comme sous-officiers.
D'accord, ça c'était il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, comment vivent les gens du voyage en France? Pourquoi certaines communes refusent de créer des aires d'accueil? Quels sont les clichés qui circulent autour d'eux? Pourquoi ils ont mauvaise réputation? On répond à toutes ces questions. Et ça, c'était peut-être un cliché, tiens, justement, sur RTL. Restez avec nous.
Curiosité, indiscrétion, révélation. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
Toujours avec vous.
RTL.
Jusqu'à 22h.
Curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On parle des gens du voyage ce soir sur RTL avec Marc Bordigoni, anthropologue, auteur de Gitans, Tziganes, Roms, idées reçues sur le monde du voyage aux éditions Le Cavalier Bleu, et des gens du voyage droit et vie quotidienne chez Dalloz. On écoute là à chaque fois en amorce, grâce à André Facetta, notre réalisateur, des chansons, la musique, ça fait partie du patrimoine commun de tous ces noms dont on parle, de tous ces peuples dont on parle. Oui ou non? Est-ce que ça c'est l'une des premières idées?
C'est un cliché peut-être. Ouais.
Oui, je dirais que tout ce monde du voyage, toutes ces cultures tziganes, c'est aussi varié que notre propre réalité, que le peuple français, etc. Et vous avez des familles de musiciens, comme vous avez des familles qui ne le sont pas, et vous allez avoir dans des groupes différents, des cultures musicales différentes, certaines qui sont des traditions, d'autres qui se réinventent. Hein. Les Gypsy Kings ont réinventé la rumba. C'est Django Reinhardt, il faisait pas du jazz manouche, ça n'existait pas. Mmh. Il faisait du jazz avec l'autre club de France. Et puis, pendant 20 ans, plus personne ne s'occupe de Django Reinhardt, jusqu'à ce que les jeunes manouches le réapproprient et inventent cette identité de jazz manouche. Mmh. Et puis les musiques tziganes aussi. Et après, il y a deux choses, c'est les musiques intérieur, interne au groupe, et puis les musiques qu'on va faire comme prestation de service, qui est un des moyens de gagner sa vie.
Et qui ne sont pas forcément les mêmes?
qui ne sont pas forcément les mêmes.
D'accord, il y a des musiques qui sont réservées à la famille ou au cercle...
Dans un certain nombre de groupes.
Qu'on
ne
va pas
jouer
pour n'importe qui, c'est ce que je comprends.
Non, on ne va pas jouer la même musique. Je ne pense pas trahir le secret que les Reyes ou la famille de Manitas, il y a des formes de musique qu'on met en scène pour le public, qu'on va avoir plaisir à jouer ensemble aussi, mais puis il va y avoir d'autres formes qui seront plus privées.
Alors, la grande difficulté au quotidien pour les gens du voyage, c'est de trouver un emplacement quand ils arrivent dans une ville. Pourquoi c'est si difficile ? Parce que les mairies ne jouent pas le jeu ?
C'est une histoire qui est presque séculaire. Là, on prend l'histoire du XXe siècle.
Et si on te parlait d'aujourd'hui, parce qu'on a parlé
juste
d'histoire.
Juste une minute.
Oui, mais
ça explique aujourd'hui, c'est ça.
Voilà. Oui. C'est quand les familles circulaient en roulotte. Autrefois, c'était à 2-3 caravanes pour pouvoir se placer. Et là, ça posait pas trop de problèmes. Et puis la guerre est passée. Et là, d'un seul coup, les groupes se sont reconstitués. Les terrains, les villes. Il a fallu s'approcher des villes, et d'un seul coup, pour s'approcher des villes, il faut être beaucoup plus nombreux pour pouvoir négocier. Et ça, c'est une histoire longue qu'on pourrait effectivement aborder un peu plus en détail.
Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui est compliqué ?
Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que pour vivre, on ne vit plus dans les campagnes. Autrefois, on évoquait les métiers. Au 19e siècle, c'est les prestataires de métiers en monde rural. On fait des paniers, on fait des échelles, on les vend, etc. On vend des ficelles.
C'est des marchés ?
Les marchés, ça vient plus tard. Ça vient effectivement à partir du XXe siècle. Et puis les marchés de plein air après-guerre. Mais la clientèle, actuellement, pour ceux qui font les marchés, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher en bord de mer sur l'Atlantique. Il faut aller la chercher au bord en Provence, au bord de la Méditerranée.
Mike
Et là,
Bandigoni.
Vous êtes en concurrence avec...
Il y a une loi qui est passée en 2000, c'est la loi Besson, qui oblige les communes à prévoir des aires d'accueil. Ça veut dire que cette loi n'est pas appliquée ?
Bah écoutez,
les aires d'accueil pour les gens du voyage.
La Cour des comptes, le Conseil d'État ont fait le bilan, je crois que c'est dans mon bouquin, c'était il y a 4 ans. 52% de ce qui était prévu en 2000 n'était pas réalisé 10 ans plus tard.
C'est des problèmes de place ou c'est parce que c'est des gens qui ont mauvaise réputation ?
C'est des problèmes... multiples, mais c'est des problèmes aussi de mauvaise volonté de la part des élus, dans la mesure où, pour un maire, faire quelque chose pour ces gens-là est un risque électoral très conséquent.
Et justement, ces clichés, on va reparler dans un instant. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
Qui sont les gens du voyage ? Pourquoi ces citoyens français sont parfois craints, montrés du doigt ? Pourquoi se sentent-ils mal aimés et mal logés ? On répond à toutes ces questions avec l'anthropologue Marc Bordigoni. Vous publiez Gitans, Tziganes, Roms, idées reçues sur le monde du voyage aux éditions Le Cavalier Bleu. Et justement, vous listez ces clichés qu'on peut avoir sur les Gitans, les Tziganes. Alors, ils n'aiment pas travailler, ils sont sales, ce sont des voleurs, ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Ils viennent d'où ces clichés ?
Ils viennent effectivement de quelque chose qui est une tradition européenne, j'allais dire ce qu'un anthropologue italien, Leonardo Piazzere, a développé. Enfin, c'est un anti-tziganisme qui est quelque chose qui s'est construit en Europe. C'est-à-dire que quand on parle du terme tzigane, j'ai employé tout à l'heure le mot, et certains vont se dire Rome, d'autres Sinti, d'autres Calais, d'autres Ritano, Andalou, ou Catalan, etc. Ou Manouche, Gascane Manouche, etc. Ils se désignent avec des termes qui sont les leurs et qui relatent leur histoire séculaire. Et puis, on a inventé cette catégorie de tzigane, qui est un mot à nous, pour créer, mettre ensemble tout le monde dans le même sac. Et comme dit Leonardo Piazzere, on a créé le fantôme pour lequel on crée des chasseurs de fantômes, des Ghostbusters. C'est-à-dire qu'on a créé quelque chose, un amalgame, et cet amalgame, il s'est créé sur des notions qui étaient des notions de rejet de l'autre. Quand on veut déshumaniser quelqu'un, on dit qu'il pue, on dit qu'il sent mauvais, on dit qu'il est sale, on dit qu'il ne travaille pas, etc. Dans le cas du... ça a été le cas pour, par exemple, une part de l'antisémitisme, etc. Mmh. Avec une petite différence, c'est que par rapport à toutes les populations qu'on appelle gitanes, etc., ou tziganes, il y a toujours une ambivalence très forte. On n'est pas dans une opposition toujours noir-blanc complète. Hein. Il faut voir qu'on rejette, d'un seul coup, on dit les Roms, ils sont pas faits pour s'intégrer, etc. Et Patrick Sébastien fait ses meilleures audiences quand il invite les Gypsy Kings ou autres. Combien de gens je connais qui font gagnent leur vie en étant des musiciens ou autres, ou en étant des prestataires de services appréciés. Mais dans un certain nombre de cas, si vous faites de la musique ou de la danse, il faut que vous vous affichiez comme gitan, tzigane, etc. Mais si vous êtes un commerçant sur les marchés ou un artisan, il faut surtout pas le dire. On avait réalisé un film sur justement les gens du voyage il y a quelques années avec Roland Côté. Christophe, je vais pas donner son nom, avait pas accepté d'être filmé. Et il venait dans le sud de la France, à côté d'Aix. Et pendant 2 ans, il n'est plus revenu parce que le film était passé 2 fois sur France 5 et que d'un seul coup, la clientèle l'avait identifié comme voyageur, comme genre du voyage, comme voyageur. Et à ce moment-là, ne voulait plus lui confier les affaires, ou du moins, il ne voulait pas que leurs voisins sachent qu'il a affaire, etc. Il y a une mauvaise réputation qui est générale.
Mais est-ce que certains, et là on va être tout sauf dans l'amalgame, mais est-ce que certains finalement n'alimentent pas cette mauvaise réputation? Quand on croise des gamins qui sont dans les villes, qui veulent nettoyer les pare-brises, eh ben qu'est-ce qu'on les voit? On les voit sales, on les voit qui ne sont pas à l'école, on les voit qui parfois sont désagréables avec les conducteurs qui refusent qu'on nettoie ou qu'on nettoie mal leur pare-brise. Donc on est là. Ensuite, justement, on est dans un amalgame.
On est complètement
mais
dans un amalgame.
Cette réalité-là, elle existe aussi.
Cette réalité-là, c'est la réalité d'effectivement des familles les plus pauvres de Roumanie qui sont venus ici, qui jusqu'à janvier 2014 n'avaient pas le droit de travailler, etc., n'avaient que la mendicité, et ça n'a rien à voir avec le monde du voyage. Vous allez voir, allez sur les aires de stationnement ou regardez même tous les reportages qu'on peut voir sur YouTube et Dailymotion, en stock, vous voyez les caravanes. On dit effectivement, ils ont des caravanes de luxe, ils ont des grandes voitures, ils ont des grands fourgons blancs, etc. Ben oui, ils ont des grands fourgons blancs parce que c'est là-dedans qu'on met tout le matériel pour le marché, etc. Et vous voyez que c'est toujours nickel. Et ça, je vous promets que vous êtes pas, parce que plus consommateur d'eau de Javel que les femmes gitanes, vous trouverez pas, hein.
D'accord. Donc on fait pas l'amalgame entre les Roms qui sont les plus pauvres, qui effectivement eux vivent parfois dans des taudis, des bidonvilles, en bord de route, en bord de périphérique pour ceux qui vivent à Paris, qui n'avaient pas le droit de travailler, c'est ce que vous nous avez dit. Ils l'ont maintenant ?
Ils l'ont depuis 2014. Oui.
Est-ce que ces populations-là scolarisent leurs enfants en France ?
Les Roms, les gens du voyage ?
Les Roms,
avec de grosses difficultés, parce que il y avait encore dans le journal ce matin, il y a eu 138 camps qui ont été détruits et expulsés cette année. Je veux dire, vous voyez toutes les associations qui travaillent sur le terrain. Quand il y a un bidonville qui se construit, etc., la première souci des familles, la plupart, je veux dire, mais vraiment pratiquement 95% des familles roms venant de l'Est, etc., c'est de scolariser leurs enfants, parce qu'il y avait une tradition de scolarisation en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, etc. Ce ne sont pas des gens qui étaient nomades, c'était des gens qui étaient sédentaires depuis des années, des dizaines d'années, qui étaient des employés de fabriques ou des ouvriers agricoles, des chauffeurs, livreurs, etc., qui ont perdu leur boulot. Et à ce moment-là, ils n'ont plus que de migrer. Et les enfants étaient scolarisés. Vous prenez le livre de Chouchou, j'oublie son nom, Je suis tzigane et fier de le rester. Eh bien écoutez, elle raconte ça. Son père était un gestionnaire d'une sorte de supérette. Et puis, quand on a su qu'il était rom, alors qu'il n'avait pas, il n'était pas basané, etc., il a perdu son boulot, dénoncé par ses collègues qui voulaient prendre le boulot, et ils ont migré. Et elle est à la Sorbonne actuellement. Et au contraire, c'est l'école qui les sauve.
Mais je continue avec des idées.
Juste une seconde.
Oui, allez-y.
Le problème, c'est que quand vous êtes en bidonville et que vous êtes sous la menace d'une expulsion du jour au lendemain, ce qui se passe, c'est que tout le travail social, tout le travail de scolarisation est détruit par les forces de police du jour au lendemain. Et il faut recommencer, retrouver un réseau, retrouver des écoles, retrouver des maîtres.
On a bien compris. Autre idée véhiculée d'ailleurs par certains reportages, ces Roms travaillent en fait pour des mafieux qui sont restés dans leur pays. Ça existe ?
Bien sûr que ça existe. Mais vous avez bien des Corses qui travaillent aussi pour d'autres Corses qui sont restés au pays.
Hein. D'accord.
Je m'appelle Bordigogne, je peux vous le dire.
Ma mère s'appelle Olivieri, donc la Corse, je connais bien aussi. Donc il n'y a pas de souci. Bon, c'est juste pour qu'on ne soit pas dans l'angélisme, vous comprenez.
On ne veut pas
être dans l'amalgame, mais il ne faut pas oblitérer ces questions-là qui sont dans le quotidien de beaucoup d'auditeurs d'RTL et qui doivent se dire quand on croise ces gamins dans la rue, on se sent pas en sécurité. Et ils sont chiants, vous l'avez dit pour moi.
Oui.
Marc Bordigogny, aujourd'hui, les gens du voyage, ils sont quoi? Ils sont forains, ils font les marchés, ils sont saisonniers.
Ils sont tout ça. Parce que depuis le 19e siècle, j'allais dire, la chose la plus caractéristique, c'est les enquêtes de la fin du 19e disent, c'est là qu'est venue la chose, c'est les gens sans métier. Quand vous prenez les documents de police à l'époque, vous voyez qu'il y a plutôt 100 métiers que pas de métier du tout. Et ben, c'est exactement la situation de beaucoup de voyageurs actuellement qui vont avoir, certains sont, alors il va y avoir les industriels forains, parmi lesquels il y a des gens qui ne sont pas de culture tzigane et d'autres qui le sont. Vous allez avoir des gens qui font les marchés, mais les marchés, c'est aussi une activité saisonnière, le cas échéant. Ça peut être une activité régulière. Vous avez des gens qui sont des pluriactifs. Hein, actuellement, à Aix, ce week-end, il y a le Paulin, là, qui est un gars que je connais bien. Il vient chaque année vendre son mimosa. Parce que il cueille pendant tout le mois de janvier, il fait la cueillette du mimosa pour les industries de parfums de grâce, et quand la cueillette a été finie, que les parfumeurs ont ce qu'il faut, eh ben il est autorisé à couper ce qui reste sur les arbres pour aller le vendre pour son propre bénéfice. Ensuite, il va faire les cerises au mois de mai, et après il enchaîne l'été avec des ventes, comme il dit, les bijoux qui clignotent, etc. C'est-à-dire tout ce qui est la petite bibeloterie qui va se vendre sur la Côte d'Azur où il réside.
Merci à vous, Marc Bordigogny. À lire Gitan, Zigane, Rome, idées reçues sur le monde du voyage, même si on en a balayé pas mal ce soir sur RTL. C'est au Cavalier Bleu. Et puis, droit et vie quotidienne en France, les gens du voyage chez Dalloz. Merci à vous.
Merci, bonne soirée.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.